Merci d'écouter RFI. 13h en temps universel, il est 14h ici à Paris.
RFI Midi. Anne Cantner.
Dernière partie d'RFI Midi sur le continent américain avec à la une la satisfaction de Donald Trump, ravi de son premier mois passé à la Maison-Blanche. Il l'a dit et répété hier lors de son premier discours devant le Congrès. Nous serons en ligne avec notre correspondant à Washington dans quelques minutes. Et on verra aussi ce qu'en pense la presse. Notre dossier du jour en Haïti, où le contrôle que les gangs imposent sur les routes bloque les livraisons de fruits et légumes. Les agriculteurs sont en très grande difficulté, nous dira notre correspondant à Port-au-Prince. Et puis l'actualité des Outre-mer françaises. Benoît Ferrand, en Martinique, le roi du carnaval s'est embrasé, comme prévu, à Fort-de-France, mais avec un peu d'avance.
Eh oui, ça n'était pas du tout prévu. Le roi Vaval aurait dû brûler cet après-midi, mais il s'est embrasé accidentellement hier lors du défilé du Mardi Gras, à la grande stupéfaction des spectateurs présents.
À tout à l'heure. Et tout de suite, c'est le journal, l'essentiel de l'actualité internationale. Bonjour Gilles Moreau.
Bonjour à tous.
Avec, pour commencer, une toute dernière information en provenance des États-Unis.
Oui, on vient de l'apprendre. Après la suspension de l'aide militaire versée à l'Ukraine, les États-Unis décident d'interrompre leur coopération avec Kiev en matière de renseignement. Vincent Souriau, c'est en tout cas ce qu'affirme la presse américaine du jour.
Info confirmée par le Financial Times. Il y a quelques minutes, la Maison-Blanche interrompt le partage de renseignements avec l'armée ukrainienne. Cela signifie que les États-Unis ne fournissent plus d'éléments sur les déplacements de l'armée russe, mais aussi que les alliés des Américains ont l'interdiction de le faire eux aussi. Le Daily Mail britannique confirme que c'est le cas de l'armée anglaise, très proche de l'appareil sécuritaire américain. Ordre a été donné de suspendre le transfert de renseignements. Coopération suspendue. On ignore à ce stade pour combien de temps et si ces canaux pourront être rétablis, alors que ces renseignements sont cruciaux pour le choix des cibles et les frappes de missiles à longue portée, en particulier pour les cibles mouvantes en Russie. Pression, bien sûr, Gilles, sur Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, afin qu'il accepte au plus vite la conclusion d'un cessez-le-feu avec la Russie.
Vincent Souriau, on vous retrouvera dans quelques minutes pour la revue de presse du continent américain. Mais d'abord, la suite du journal. Gilles Moreau.
1h40, c'est la durée record du discours fleuve prononcé hier soir par Donald Trump au Congrès des États-Unis à Washington. Il a notamment affirmé devant des élus républicains exaltés, des démocrates consternés, que son pays était, je cite, sur le point de connaître un retour en force comme le monde n'en a jamais connu.
L'Allemagne va débloquer des centaines de milliards d'euros pour renforcer son armée et pour relancer la croissance.
Oui, l'Allemagne qui se dirige vers un gouvernement de coalition dirigé par le conservateur Friedrich Merz, sorti vainqueur des élections. Parti conservateur et social-démocrate qui négocie la formation de ce gouvernement ont dévoilé hier soir leur projet d'investissement sans précédent concernant la défense. Les deux partis vont demander à la Chambre des députés, le Bundestag, de pouvoir s'affranchir des règles constitutionnelles qui limite le déficit budgétaire, alors que pour les infrastructures et la relance, un fonds spécial de 500 milliards d'euros sera mis en place. On écoute Friedrich Merz.
Les dépenses supplémentaires en matière de défense ne pourront être absorbées que si notre économie retrouve une trajectoire de croissance stable dans un délai très court. Cela nécessite, outre une amélioration radicale des conditions de compétitivité de notre économie, des investissements rapides et soutenus dans nos infrastructures. Les ressources nécessaires ne peuvent pas être financées uniquement par les budgets fédéraux, étatiques et locaux. Actuel. C'est pourquoi nous voulons mettre en place un programme d'urgence financé par le crédit, un fonds spécial de 500 milliards d'euros pour les 10 prochaines années, à partir duquel ces investissements nécessaires seront réalisés.
Le conservateur Friedrich Merz, probable prochain chancelier allemand. L'Allemagne donc prend un virage radical en débloquant des milliards d'euros pour se réarmer. Virage encore impensable. Il y a peu, il intervient à la veille d'un sommet extraordinaire des 27 de l'UE ce jeudi à Bruxelles, avec à l'ordre du jour l'aide à l'Ukraine à l'heure du désengagement américain et le projet de défense européenne. Il en sera aussi question ce soir lors d'une allocution radio-télévisée d'Emmanuel Macron. Comme en Allemagne, il devrait plaider pour une hausse des dépenses de défense, quitte à s'affranchir des règles budgétaires. Allocution présidentielle à suivre sur RFI à partir de 20h.
Le Mexique accuse le coup après le relèvement de droits de douane américains.
Donald Donald Trump a donc mis sa menace à exécution en relevant les droits acquittés par trois pays, dont le Mexique. Un vrai coup dur pour un pays dont 80% des exportations partent vers les États-Unis. Un pays qui, par ailleurs, affiche de bons résultats dans la lutte contre le narcotrafic. C'était une exigence de Donald Trump, mais voilà, cela n'aura pas suffi. Correspondance de Gwendolina Duval.
La présidente Claudia Sheinbaum critique une décision unilatérale de la part des États-Unis, qu'elle qualifie d'offensive et diffamatoire. Son gouvernement prépare une réponse.
Le Mexique doit être respecté. Nous sommes des nations égales. Nous avons décidé de prendre des mesures douanières et non douanières que j'annoncerai en place publique ce dimanche.
Dans les médias locaux, on souligne que la réponse du Mexique est moins virulente que celle du Canada ou de la Chine. Tandis que des organisations du secteur privé ont affiché leur soutien au gouvernement, la présidente Sheinbaum, qui n'est parvenue qu'à retarder la mise en place de ses frais de douane, suit sa stratégie de garder la tête froide et prétend toujours chercher la voie d'une négociation.
Nous ne voulons pas entrer dans une guerre commerciale. Cette décision affecte les gens. Je convoque tous les Mexicains et toutes les Mexicaines à faire face à ce défi qui nous est présenté.
Forte d'un soutien qui dépasse les 80%, encore au-delà de son prédécesseur Andrés Manuel López Obrador, la présidente du Mexique appelle à l'unité des Mexicains et assure que l'économie du pays tiendra le coup. Gwendolina Duval, Mexico, RFI.
L'Australie se prépare à l'arrivée d'un cyclone sur sa côte orientale dans des régions densément peuplées. Les prévisionnistes l'assurent, le cyclone Alfred frappera très tôt vendredi matin le secteur de la ville de Brisbane. La prochaine arrivée du cyclone tropical a déclenché des alertes d'urgence et conduit à la fermeture anticipée de centaines d'écoles. Au Japon, c'est le feu qui sévit. Un mort, 4000 évacuations dans la région d'Iwate, dans le nord-est de l'archipel. Les autorités continue de combattre le pire incendie de forêt au Japon depuis un demi-siècle, en espérant toutefois que la pluie qui a commencé à tomber soulagera leur tâche.
Et puis du sport pour terminer votre journal, Gilles, du basket.
Du basket, oui, avec la NBA, son King LeBron James. La star des Lakers a de nouveau gravi hier soir un sommet. Il est devenu à 40 ans le premier basketteur à passer la barre symbolique des 50 000 points marqués dans la Ligue nord-américaine. C'était lors de la victoire de son équipe face aux Pelicans de la Nouvelle-Orléans, Solène Ravenel.
Au coup d'envoi, il ne manquait qu'un point à LeBron James et il n'a pas fallu attendre longtemps pour que la star des Lakers passe cette barre des 50 000 points en NBA. 3 minutes 26 au compteur, après une passe décisive de l'autre vedette de l'équipe, Luka Doncic, LeBron James, derrière la ligne de 3 points, marque et embrase l'aréna. 22 seasons, 40 years of age, LeBron James, 50,002 points. LeBron James continue d'écrire l'histoire de son sport après avoir rejoint il y a un an le club très sélect des joueurs avec plus de 40 000 points en saison régulière, retrouvant les stars Abdul-Jabbar et Karl Malone, un club que même Kobe Bryant et Michael Jordan n'ont pas intégré. À 40 ans, le King impressionne son nouveau coéquipier Luka Doncic, qui le voit aller encore plus loin.
Le voir faire ça à son âge, c'est tout simplement incroyable. 50 000 points, je ne peux même pas expliquer à quel point c'est dingue. Et il pourrait atteindre les 70 000, on ne sait jamais.
Tout juste nommé meilleur joueur de la Conférence Ouest pour le mois de février et encore meilleur marqueur de son équipe hier soir, LeBron James montre qu'il ne veut pas s'arrêter là et espère remporter un cinquième titre de NBA cette saison.
Solène Ravenel, un tout dernier mot de football avec la suite des huitièmes de finale aller en Ligue des Champions. Ce soir au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain reçoit Liverpool. C'est l'un des matchs au programme. Très bonne journée sur RFI, tout de suite avec Anne Cantner.
Merci Gilles Moreau. Dernière partie de RFI Midi sur le continent américain.
RFI Midi. L'actualité d'Haïti et des Amériques.
Et on va revenir d'abord sur le discours prononcé hier par le président des États-Unis devant le Congrès.
America is back.
Discours très attendu, toutes les allocutions de dirigeants devant le Congrès le sont, et celle-ci particulièrement, la première de Donald Trump depuis son retour au pouvoir. Vous l'avez suivi, Guillaume Nodin, bonjour.
Bonjour Anne, bonjour à toutes et à tous.
En direct de Washington, alors Donald Trump est connu pour être son meilleur publicitaire et pour passer son temps à vanter ses actions. Et c'est bien ce qu'il a fait hier.
Oui, le président revendique le début de mandat le plus actif et le plus réussi de toute l'histoire américaine, avec près d'une centaine de décrets signés et près de 400 décisions prises durant les 43 premiers jours de son mandat. une avalanche d'annonces et de décisions qui débordent à la fois la presse, il faut le dire, et ses adversaires politiques qui sont pratiquement sans réaction, mis à part le représentant du Texas, Al Green, qui a brillamment contesté que Donald Trump est un mandat clair du peuple américain et qui a d'ailleurs été escorté jusqu'à la sortie pour cela. Il n'était pas très bruyant et certains d'entre eux avaient même boycotté ce discours. À part quelques panneaux assez discrets, les élus démocrates ont surtout fait la grève des applaudissements et d'ailleurs, Donald Trump l'a bien remarqué.
C'est mon cinquième discours du genre au Congrès. Et une fois encore, je regarde les démocrates devant moi et je réalise qu'il n'y a absolument rien que je puisse dire pour les rendre heureux ou les faire se lever, sourire ou applaudir. Il n'y a rien que je puisse faire. Alors les démocrates assis devant moi, pourquoi, juste pour un soir, ne pas vous joindre à nous pour célébrer tant d'incroyables victoires pour l'Amérique ?
Et autant vous dire qu'il n'a pas obtenu les applaudissements recherchés.
Mais c'est la tradition, il y a eu une réponse.
Oui, on appelle ça le rebuttal. Et cette réponse, elle a été fournie par la nouvelle sénatrice démocrate du Michigan, Elissa Slotkin, qui a fait carrière dans le renseignement. Elle a été recrutée par la CIA il y a quelques années. Elle est donc spécialiste des questions de sécurité, mais elle est aussi capable de parler d'économie, comme l'a fait Donald Trump. Et voici ce qu'elle lui a répondu.
Le président Trump essaie de faire un cadeau sans précédent à ses amis milliardaires. Il cherche des milliers de milliards de dollars à donner aux plus riches des Américains. Et pour faire ça, il va vous faire payer dans tous les domaines de votre vie. Les prix de l'alimentation et du logement augmentent, ils ne baissent pas, et il n'a pas proposé de plan pour régler l'un ou l'autre. Ces droits de douane contre des alliés comme le Canada vont faire monter les prix de l'énergie, du bois de construction et des voitures. Cela lance une guerre commerciale qui va toucher l'industrie et les agriculteurs. Le prix de vos traitements médicaux va augmenter parce qu'il n'a tout simplement pas l'argent nécessaire sans toucher à vos soins de santé. Et pendant ce temps, la dette augmente et s'il ne fait pas attention, il pourrait nous entraîner dans la récession.
Et il est à noter que cette réponse faisait 10 minutes contre une bonne heure et demie de discours de Donald Trump.
En revanche, les républicains majoritaires et à la Chambre et au Sénat, eux, ont montré de l'enthousiasme.
Oui, c'est aussi la tradition et c'est ce qu'ils ont fait quand Donald Trump a dit que son prédécesseur Joe Biden a été le pire président de l'histoire, quand il a salué Elon Musk et son travail avec le département de l'efficacité gouvernementale pour détecter la fraude et les économies, en prenant l'exemple des abus dans les comptes de la sécurité sociale, des déclarations qui sont assez invérifiables, la retraite des personnes âgées les plus fragiles économiquement, c'est ça la sécurité sociale aux États-Unis. Il veut récupérer l'argent indûment versé selon lui pour faire baisser les prix, les taux d'emprunt immobilier et redonner des moyens aux Américains.
Il a beaucoup parlé d'économie.
Oui, avec notamment sa politique de droits de douane qui, malgré quelques perturbations, explique-t-il, où la bourse, par exemple, a effacé tous ses gains depuis le 20 janvier en deux jours. Malgré cela, c'est selon lui bon pour le pays à terme. Il se félicite des investissements annoncés par plusieurs entreprises, des investissements notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle ou de la fabrication de puces électroniques qui sont évidemment réfléchies depuis un moment par les entreprises concernées et qui ont été mises en scène depuis le début de son mandat.
Et puis Donald Trump a aussi parlé de sujets internationaux.
Oui, il confirme qu'il veut reprendre le canal de Panama sans évoquer directement l'option militaire comme il l'a déjà fait, d'une manière ou d'une autre, a-t-il dit. Pas plus que pour le Groenland, pour lequel il renouvelle son intérêt économique et de sécurité, mais en se disant favorable à l'autodétermination des habitants. Enfin, surtout, quelques jours après l'invraisemblable incident diplomatique du bureau ovale, il annonce avoir reçu une lettre du président ukrainien Volodymyr Zelensky, lui annonçant qu'il veut faire la paix sous sa direction à lui, Donald Trump, qui continue à négocier avec la Russie, et que l'Ukraine souhaite signer l'accord qui donne accès à ses minerais et terres rares aux États-Unis.
Guillaume Nodin en direct de Washington. Cette longue allocution, discours de plus d'une heure et demie, fait aussi les gros titres de la presse, bien sûr, aux États-Unis. Vincent Sorel.
Oui, le Wall Street Journal, pour commencer, publication conservatrice et libérale, le passe au tamis, discours avec 6 éditorialistes plutôt satisfaits dans l'ensemble. La phrase à retenir, nous dit l'un d'eux, elle est simple, le peuple m'a élu pour faire le job et je suis en train de le faire. Eh bien, oui, c'est le cas, résume Barton Swaim. Expansion du forage pétrolier, chasse au gâchis dans l'administration fédérale, répression du crime dans les centres urbains, expulsion de sans-papiers, tout ça, les 4/5 de ce discours, en résumé, sont des mesures largement soutenues par les Américains.
Sauf qu'il y a les droits de douane et là, ça se corse un peu.
Oui, sur ce point, son discours sonnait comme au bon vieux temps du protectionnisme. C'est toujours le Wall Street Journal qui parle. Difficile d'entendre parler de victoire pour les consommateurs américains lorsque, par exemple, poursuit le journal, M. Trump rend les importations de fruits et de légumes encore plus chères. Vu à quel point les électeurs en voulaient à Joe Biden pour la hausse des prix, Donald Trump a peut-être tendance à minimiser le risque politique quand il annonce, je cite, une légère perturbation en matière commerciale.
Dernier point, une petite gifle au passage pour les démocrates.
Oui, les plumes du Wall Street Journal s'en donnent à cœur joie avec leur phrase toute faite sur quelques pancartes, Musk est un voleur ou ce que vous dites est faux. Les démocrates avaient l'air plutôt ridicules, sans parler de ces élus habillés en rose pour protester contre les mesures de Trump envers les femmes. Tout ce que les démocrates ont mis en œuvre hier soir dans l'hémicycle nous confirme, écrit le Wall Street Journal, une fois de plus pourquoi ces fameux démocrates ont perdu au mois de novembre.
Et les signatures de New York Times ne sont pas loin de penser la même chose.
Pour n'en citer qu'une, Michel Goldberg, les démocrates n'auraient tout simplement pas dû venir et quitte à y aller, pourquoi se munir de ces pancartes stupides si ce n'est servir de faire valoir à un autocrate trop content de couper l'Amérique en petits morceaux.
Ce dont on parle moins, Vincent, ce sont les procédures judiciaires engagées contre l'administration Trump.
Des dizaines depuis son investiture le 20 janvier. Parmi elles, il y a quelques jours, ses recours contre la fin programmée du TPS. Rappelez-vous, pour les Haïtiens, Joe Biden avait étendu ce dispositif d'accueil jusqu'en février 2026. Eh bien, la nouvelle Maison-Blanche ne veut plus en entendre parler. Par conséquent, au-delà du 3 août de cette année, tous les Haïtiens présents aux États-Unis par le biais du TPS risquent de se retrouver dans l'illégalité. Eh bien, quatre d'entre eux, appuyés par trois organisations, viennent d'attaquer cette décision de la Maison-Blanche. NBC News cite l'un de leurs avocats. L'idée de supprimer le TPS pour Haïti et le Venezuela, dit-il, répond à des préoccupations raciales et n'a aucune considération pour la réalité vécue par ces communautés. Le principal argument juridique de ce recours, c'est que l'actuelle administration américaine n'a pas le pouvoir de revenir sur ce délai déjà gravé dans le marbre par l'équipe Biden. On ne sait pas, Anne, à ce stade, quand ce dossier pourrait être jugé.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
En Haïti, la situation ne cesse de se dégrader. Le journal Le Nouvelliste nous apprend que les gangs ont mené un nouvel assaut à Kinskoff et ont enlevé plusieurs personnes lors de leur incursion dans la localité de Badio. Le maire explique au journal, ils avaient creusé des tranchées pour rendre la zone inaccessible aux véhicules de la police. On attend du matériel afin de réparer la route. Et les criminels, eux, se trouvent toujours à Carrefour Badio. Le maire indique aussi que des agents de la PNH, des forces armées et de la mission multinationale sont toujours sur place à Kinskoff et ce depuis plusieurs semaines. Les conséquences de l'insécurité, elles se font particulièrement sentir chez les agriculteurs qui ne peuvent plus vendre leur production. Les routes sont trop dangereuses, contrôlées par les gangs qui rackettent les voyageurs et les fruits, les légumes ne parviennent pas jusqu'aux grandes villes. Conséquence, les producteurs perdent de l'argent, les chauffeurs de camions ne travaillent plus. C'est le cas notamment dans la commune de Fonverette, à l'est de Port-au-Prince, et tous, sur place, en appellent aux autorités. Peterson Luxama.
Obligé pas qu'à prêter garder sous cultivateur là seulement.
Joseph a 65 ans. Il habite Fonverette. Depuis quelque temps, il a laissé dans un coin de sa maison sa roue et sa pioche qui lui servaient à cultiver la terre. Cet agriculteur qui vivait de son travail au champ se retrouve démuni. À cause de l'insécurité, ses récoltes pourrissent et l'argent investi pour planter choux et carottes est perdu.
Moi, personnellement, au cours des trois dernières saisons, j'ai dépensé plus d'1,5 million de gourdes. La majorité des citoyens sont des cultivateurs. Nous avons perdu de nombreuses plantations. Les choux, ce sont les animaux qui les mangent. Les pommes de terre, les carottes, les oignons, nous avons tout perdu. Et c'est à cause de l'insécurité.
Le calvaire de ces paysans, qui vivent surtout de l'agriculture, a commencé depuis que le gang des 400 Marozo empêche les camions de circuler sur la route de Gantier, quoi des bouquets. Des chauffeurs de camions en font aussi les frais. À l'image d'Yvon, qui se retrouve désormais au chômage et ne peut plus répondre aux besoins de sa famille. Trop d'argent à donner aux bandits, dénonce Yvon.
En tant que chauffeur de camion habitué à faire le trajet Fonverette, Port-au-Prince, Anse-à-Pitre, Belle-Anse, avant que la route ne soit bloquée, il fallait payer environ 65 000 gourdes pour circuler de fonds parisiens à Port-au-Prince. Maintenant, les camions ne peuvent plus passer du tout. Nous ne pouvons rien faire. Chauffeurs, paysans, cultivateurs, tout le monde souffre.
La seule alternative pour les chauffeurs de camions, selon Yvon, que les paysans acceptent de vendre leurs produits aux CAI dans le sud du pays. Mais partir de Fonvérède pour traverser le sud-est représente un coût énorme, sans parler des risques liés à l'état calamiteux des routes. Agriculteurs et chauffeurs de camions souffrent. Fonvérette s'enfonce dans la misère.
C'est un camion qui devait partir de la forêt des Pins en passant par Thiotte et Belle-Anse pour arriver au CAI. Mais avant d'y parvenir, il tombera en panne sur la route. Alors qu'une nouvelle saison de récolte est prête, malheureusement, elle sera perdue. Pommes de terre, carottes, oignons, choux, piments, tomates, rien n'est épargné. La situation est terrible.
Conséquence, l'argent ne circule presque plus dans la commune. Ce qui complique la situation économique des habitants. Certains d'entre eux ne sont même pas en mesure de payer la scolarité de leurs enfants. La situation interpelle des responsables d'institutions scolaires dans la commune. Ils menacent de mettre la clé sous la porte, comme cette directrice d'école qui préfère qu'on ne dise pas son nom.
L'école a ouvert, mais les parents n'ont pas qu'à payer.
Les cours ont repris, mais les parents ne peuvent pas payer, car ce sont les produits comme les pommes de terre et les carottes qu'ils doivent vendre pour payer la scolarité, acheter les uniformes et d'autres fournitures scolaires. Nous, responsables d'établissements scolaires dans la commune, nous finirons par fermer. Les enfants viennent à l'école sans manger, sans uniforme, sans aucun livre dans leur sac. La situation est devenue insupportable.
Fonvérette, une commune en proie à de multiples difficultés, semble avoir été oubliée par les autorités. Les paysans crient leur détresse, ils n'en peuvent plus. Face à la gravité de cette situation qui perdure, les habitants appellent les autorités administratives et la police à intervenir pour libérer la route, contrôlée par le gang des 400 Marozo depuis un bon bout de temps. Agénor est un cultivateur.
Nous demandons au directeur général de la police, Normile Rameau, ainsi qu'au président du conseil présidentiel de transition, Leslie Voltaire, de nous aider face au phénomène de l'insécurité. Au nom de la population, nous demandons que les routes soient débloquées et que la sécurité soit rétablie afin que nous puissions vendre nos produits.
Sans une intervention rapide des autorités concernées, cette crise pourrait avoir des répercussions dramatiques sur l'ensemble de la population, notamment sur la sécurité alimentaire de la région et du pays tout entier. Peterson Luxama, Port-au-Prince, RFI.
Nous parlions tout à l'heure du discours de Donald Trump. Le président américain a répété hier ses ambitions sur le canal de Panama, où les choses changent sous la pression. La société hongkongaise qui exploitait les ports annonce avoir conclu un accord de principe avec un groupe mené par les Américains de BlackRock pour vendre la plupart de ses sites, dont les deux qui se trouvent sur ce fameux canal essentiel au commerce international. Cela pourrait coûter 19 milliards de dollars au consortium américain. Et faire plaisir donc à Donald Trump qui cherche à regagner en influence, Grégoire Portier.
Les autorités panaméennes se sont contentées de prendre acte de la vente prochaine des deux ports gérés par la société hongkongaise Hutchison aux deux extrémités du canal de Panama. Il s'agit d'une transaction globale entre deux sociétés privées motivées par leurs intérêts mutuels, a réagi la présidence du petit pays d'Amérique centrale. Le communiqué indique seulement que le gouvernement veillera à ce que les régulations et lois locales soient respectées. Mais le texte précise surtout que l'audit actuellement en cours sur le fonctionnement de ces deux infrastructures sera malgré tout finalisé. Cette inspection avait été diligentée il y a quelques semaines alors que Donald Trump avait mis la pression dénonçant une emprise de la Chine sur le canal. L'accusation avait surpris puisque le Panama a toute autorité sur le canal et que Hutchison ne gérait que deux des ports de la zone, l'un des trois autres étant même déjà exploité par une société américaine. Le géant hongkongais a assuré que son retrait du Panama n'avait rien à voir avec les menaces de Trump, à voir désormais si le probable rachat des ports de Balboa et Cristobal par le consortium mené par BlackRock suffit à satisfaire le président américain. Grégoire Portier, Panama, RFI.
Le journal de l'Outre-mer.
On vous retrouve Benoît Ferrand pour parler d'abord de la Martinique où le roi du carnaval s'est embrasé plus tôt que prévu avec 24 heures d'avance à Fort-de-France.
Et oui, et ça n'était pas du tout prévu. Le roi Vaval aurait dû brûler cet après-midi, mercredi des cendres, mais il s'est embrasé accidentellement hier lors du défilé du Mardi Gras à la grande stupéfaction des spectateurs présents.
On a seulement vu qu'il y avait du feu qui sortait, c'est tout. Et puis ça s'embrasait d'un coup. C'est la première fois que Vavel brûle avant l'heure, donc ça me fait un peu de peine en vrai.
Oui, c'est bien la première fois. C'est le mardi décembre, on a brûlé le rat. Non, c'est vraiment pas sérieux.
Il y avait beaucoup de fumée, mais je n'ai pas eu le temps de le voir.
C'est une blague.
Non, je vous assure.
Vous avez vu Vavel brûler, là.
Il était moche comme tout, donc c'est pas plus mal. Hein.
C'est une blague, non? Ah mince alors.
Justement, on est en train d'attendre pour voir justement son passage, mais...
Mais il n'y aura pas de passage, hein.
Pourquoi?
Il a brûlé déjà.
Ah mais non, ça m'étonnerait. Non, je vous crois pas.
C'était son sort, hein. Il a mérité. Il représentait des choses. Il méritait d'être brûlé apparemment.
C'est pour pouvoir s'expirer de tous nos péchés, de tout ce que nous avons. C'est-à-dire de tout ce qui s'est passé au courant d'année 2024, de toute la situation économique, la situation culturelle, ce que nous avons vécu, la vie chère. Et aujourd'hui, on est en train d'expirer ça maintenant.
Un nouveau Vavel est en train d'être construit. La construction a été lancée en express hier. Un nouveau Vavel qui sera donc, lui, brûlé aussi cet après-midi. Le carnaval suite, mais en Guadeloupe cette fois-ci. En Guadeloupe, où on s'interroge sur la manière de rendre les festivités carnavalesques tous les ans moins polluantes et plus durables. Éric Lefebvre.
S'il est un spectacle, le carnaval est aussi une formidable caisse de résonance qui porte les questionnements qui traversent la société. Les préoccupations environnementales sont ainsi présentes dans les parades, les vidées et les déboulées depuis déjà de nombreuses années à travers les thèmes, les décors, les costumes qui évoquent souvent tantôt la nature, tantôt ce qui la pollue. Le chlordécone et la biodiversité sont ainsi parmi les thématiques les plus usitées. Et depuis quelque temps, en particulier sous l'impulsion des Massapo, l'utilisation de matières naturelles, de matériaux de récupération et d'objets recyclés traduit en acte la prise de conscience écologique des carnavaliers. Une prise de conscience impérieuse, car dans le même temps, le carnaval est un événement à forte empreinte carbone. L'utilisation encore massive de matières et de produits issus de l'industrie pétrochimique et importés, les déplacements des spectateurs et la montagne de déchets, gobelets, bouteilles plastiques, canettes et autres papiers gras abandonnés le long des parcours constituent encore un énorme défi à relever pour faire du Carnaval de Guadeloupe un événement écologiquement durable et soutenable.
Un dernier mot, Anne, pour vous dire que le deuxième lancement d'Ariane 6 en Guyane est prévu aujourd'hui, 13h24, heure de Guyane, 17h24, en heure de Paris. Bon après-midi, à demain.
À demain, Benoît Ferrand. Vous restez avec nous sur RFI, on va écouter un peu de musique pendant les prochaines minutes, avant De Vive Voix avec Pascal Paradou.
Well, I was dancing in a lesbian bar in the industrial zone. I was dancing with my friends and dancing alone. Well, the first bar, things were all right, but in this bar, things were fried.
Voilà, vous avez déjà le titre, I was dancing in a lesbian bar de Jonathan Richman qui sera en concert ce soir à Montréal.
Well, the first bar, things were stop and stare, but in this bar, things were laissez-faire. In the first bar, things were stop and stare. In this bar, things were laissez-faire. And I was dancing in the lesbian bar. Oh, oh. I was dancing in the lesbian bar. Ooh, ooh, ooh. In the first bar, folks were drinking sips. But in this bar, they could shake their hips. In the first bar, they were drinking sips. In this bar, they could shake their hips. And I was dancing in a lesbian bar. Oh, oh. I was dancing in a lesbian bar. Ooh,
Jonathan Richman qui sera en concert ce soir à Montréal. Et ce titre, I was dancing in a lesbian bar. C'est ainsi que se termine RFI Midi pour aujourd'hui. L'émission était réalisée ce mercredi par Vincent Biteau. On se retrouve demain, 11h30, temps universel. Et pour l'heure, c'est Pascal Paradou qui vous attend pour l'émission De Vive Voix. Il sera question d'éloquence aujourd'hui. Très bonne journée à tous.
RFI Midi.